C'est l'heure de l'info sur Radio Panique. Décrypter, débattre, discuter, c'est l'actualité en 3D. Avec le Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique et Panique, radio d'expression et de création reconnue en éducation permanente.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous écoutez Radio Panique sur le 105.4 FM, radiopanique.org. Nous sommes le lundi 8 février 2021. Il est 11h, passé de quelques secondes, et c'est un nouvel épisode de l'actualité en 3D, votre rendez-vous mensuel de décryptage de l'actualité politique, un rendez-vous que vous propose Radio Panique et le CRISP, le Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, on va découvrir peut-être une partie du travail du CRISP un peu moins connue du grand public. On connaît le CRISP évidemment pour ses analyses politiques, mais le CRISP, depuis ses origines, travaille également sur le secteur économique. Alors, quel lien établit le CRISP entre le secteur économique et son objet d'étude privilégié, soit la prise de décision politique en Belgique? Quels sont les principaux axes des recherches menées par le CRISP en matière économique? Sur quel secteur d'activité s'attarde-t-il tout particulièrement? Quels sont les principaux résultats de ces recherches? Que révèle-t-il sur la santé économique belge et wallonne? Qui sont les acteurs économiques importants, nationaux ou étrangers, qui détiennent les leviers décisionnels et qui, à ce titre, participent à la reconfiguration de l'économie belge? Eh bien, on tâchera de répondre à toutes ces questions et probablement à bien d'autres. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir David Vandenabel. Bonjour David.
Bonjour.
David, vous êtes historien, économiste, et ça tombe bien, vous êtes coordinateur du secteur économie du CRISP.
C'est bien ça.
Décrypter, débattre, discuter, c'est l'actualité en 3D. Avec le CRISP et Radio Panique.
Alors David, pour commencer cette exploration du travail économique du CRISP, répondre à une question très simple. Pourquoi le CRISP s'intéresse-t-il à l'économie ?
Eh bien, comme vous l'avez dit dès le début, l'objet social du CRISP, c'est la prise de décision politique. Et très rapidement, le CRISP s'est rendu compte, et c'est assez naturel, que dans cette prise de décision politique, elle était liée au pouvoir économique. Donc, c'est-à-dire aux acteurs qui tirent leur pouvoir de l'économie, ou au contraire, aux acteurs qui ont un pouvoir sur l'économie. Donc, cette prise de décision politique, elle peut influencer, elle a des conséquences forcément sur l'économie, mais également les acteurs économiques peuvent avoir une influence sur celle-ci. Et donc, tout naturellement, le CRISP a décidé de dédier une partie de ses forces de recherche à l'étude du pouvoir économique.
Alors, je le disais en introduction de cette émission, en regardant un tout petit peu, en fait, c'est depuis l'origine du CRISP que vous vous intéressez à l'économie.
Oui, c'est ça. Dès le début, il y a eu dans les premières publications, il y a des publications qui concernent les acteurs économiques. Alors, évidemment, ça concerne les intérêts de l'époque. On parle des charbonnages, bien sûr. On parle des sociétés financières déjà, mais notamment essentiellement de la Générale, la Société Générale de Belgique. Et puis, on parle aussi de la presse, déjà de l'actionnariat de la presse, etc.
On peut rappeler peut-être la date de création du CRISP, hein, et le début de ses travaux, notamment en matière économique.
Oui, les premières publications, c'est 1959, et idem pour l'économie.
Alors, vous venez de citer une institution économique célèbre dans l'histoire belge, la Société Générale. Peut-être pour nos plus jeunes auditeurs, nos plus jeunes auditrices, c'est quoi la Société Générale?
Oui, effectivement, ça date un peu. Donc la Société Générale, aujourd'hui, on est obligé de préciser de Belgique. C'est une entité, une société qui a été fondée avant la création même de la Belgique, en 1822, et qui a eu un impact important sur la Belgique. Initialement, c'est une société essentiellement financière, mais qui a eu des racines dans tout ce qui a présidé à l'histoire belge, donc c'est-à-dire dans l'industrialisation, qui a eu des impulsions dans l'industrialisation, qui a eu évidemment, qui a tiré beaucoup de profits et qui a eu beaucoup d'activités également dans la colonisation lors de la période coloniale. Et c'est une société qui est intimement liée à l'histoire de Belgique.
Alors peut-être avant de préciser, de décliner, de passer en revue les axes contemporains de la recherche économique menée par le CRISP, en fait, à qui s'adresse cette recherche? C'est quoi le but que vous poursuivez en faisant ces recherches?
L'objectif du CRISP, au niveau économique comme pour le reste, c'est simplement d'informer, de participer au débat démocratique et donc de rendre public une série d'informations sur la manière dont sont prises les décisions politiques, mais aussi sur les acteurs économiques, leur poids, sur leur influence et sur toute une série de sujets économiques également qu'on va passer en revue prochainement.
Bien justement, c'est quoi vos principaux axes de recherche dans le secteur économie du CRISP que vous coordonnez ?
Alors, il y en a trois. Le premier, qui est la base de tout, qui est vraiment le fondement de la recherche au CRISP, c'est l'actionnariat des entreprises. Donc, le CRISP s'attache essentiellement à essayer de décoder quels sont les actionnaires des entreprises, surtout situées en Wallonie, même si notre travail concerne aussi en partie la Belgique. Donc, avec ça, on a développé un intérêt pour deux angles particuliers, qui sont d'une part la concentration économique et d'autre part la dépendance externe. Et alors, ça c'est le premier thème de recherche, il est fondateur. Les deux suivants, c'est d'une part toute une série d'études de secteurs, d'études thématiques, sur une série de secteurs que nous on identifie comme stratégiques. Et puis alors, d'autre part, une série de publications plutôt orientées sur des secteurs plutôt secteurs environnementaux, énergétiques, qui sont assez vivants et assez, assez innovants actuellement. Quoi.
Oui, c'est ça, l'idée d'analyser certains nouveaux modèles économiques.
C'est ça.
On peut rappeler d'ailleurs à cet égard que notre émission de janvier dernier était consacrée à l'un de ces nouveaux modèles, l'économie circulaire, et on avait le plaisir de recevoir votre collègue Fabienne Collard. Cette émission, elle est évidemment disponible en podcast sur le site radiopanique.org comme l'ensemble de nos autres émission. Alors bien, on va pas revenir alors sur ce thème, on va plutôt s'attarder aux deux premiers axes que vous venez de présenter, l'actionnariat des entreprises et puis l'attention particulière réservée à certains secteurs stratégiques. On va commencer par cette notion qui est difficile à dire, excusez-moi, d'actionnariat. Peut-être un rappel pour les personnes qui ont peu de bagages économiques, c'est quoi un actionnaire et en quoi est-ce intéressant de savoir quels sont ces actionnaires actifs dans l'économie belge ?
Alors, un actionnaire, c'est une personne, physique ou morale, qui détient les actions d'une société. Avec ça, on n'a pas dit grand-chose encore. L'intérêt, c'est que les actions d'une société, en détenant les actions d'une société, elle détient une partie du droit de propriété sur cette société, donc elle a un droit de vote sur une série de décisions importantes pour cette société qui concernent notamment les restructurations, l'engagement, la fondation de nouvelles filiales, etc.
Alors tout à l'heure, vous avez évoqué un mot peut-être un petit peu technique. Vous avez parlé de dépendance externe en présentant les recherches sur l'actionnariat. Ça signifie quoi cette dépendance externe ?
Bien donc, la Belgique est une petite économie ouverte, c'est-à-dire qu'on a un petit marché. Et donc, comme nous vivons et évoluons dans un système socio-économique capitaliste, ce système a besoin, pour son économie, de capitaux, de flux de capitaux. Comme on est sur un petit marché, ces flux de capitaux sont nécessairement limités. Et dès le début, la Belgique, il y a déjà longtemps, a tenté d'attirer les investissements externes. Donc ça veut dire les investisseurs étrangers pour qu'ils viennent créer ou développer des sociétés présentes en Belgique. C'est la présence, le nombre et la présence de ces investisseurs étrangers en Belgique que nous, on va qualifier de dépendance externe.
Vous avez quelques exemples d'entreprises, de sociétés belges plus ou moins connues du grand public qui sont en réalité détenues par des capitaux étrangers, par des actionnaires étrangers ?
Alors, oui, il y en a beaucoup. Donc, on estime en général en Belgique que les capitaux étrangers détiennent environ 2% des sociétés, ce qui est très faible, mais environ 30% de l'emploi. Donc, ça montre qu'elles concernent, elles sont ciblées sur des entreprises d'assez grande envergure. Souvent, ce sont des noms qu'on associe très rapidement à des actionnaires étrangers. Et quand on sait que Google est en Wallonie, on sait que Google est américain aussi. On a parlé de FedEx il y a quelques semaines avec les licenciements. On sait aussi que c'est américain. Quand on parle de Carrefour, on sait que c'est français. Il y a parfois des noms qui restent à connotation belge, mais qui sont passés sous pavillon étranger. On peut par exemple penser dans le domaine de la restauration aux marques Lutosa, Amora, qui sont des marques connues des friteries belges et qui sont passées sous pavillon McCain essentiellement.
Ah bon ? D'accord. Donc ce ne sont plus des entreprises belges.
Ce sont des entreprises dont les décideurs sont désormais canadiens, effectivement.
Et un autre exemple peut-être, alors à part les frites ou les sauces.
Bah, y en a légion, hein, mais donc oui. On peut avoir la présence d'entreprises étrangères qui viennent et qui reprennent complètement une entreprise existante ou qui viennent à l'inverse fonder une filiale de leur multinationale ou de leur entreprise. On peut aussi avoir des participations minoritaires, moins visibles, mais qui peuvent avoir une certaine influence. Par exemple, dans Fluxys, qui gère les réseaux de gaz en Belgique, on a la présence d'un gros fonds de pension canadien aussi. Donc, on peut avoir des présences moins visibles, mais qui sont là aussi, et tout aussi importantes à tracer, à identifier.
Et alors, pour faire le lien avec l'objet social le plus générique du CRISP, hein, l'analyse de la prise de décision, eh bien, quelles conséquences cette présence étrangère a sur la prise de décision ?
Alors, initialement, si on attire ces investissements étrangers, c'est dans l'objectif de créer quelque chose de vertueux, c'est-à-dire de créer de nouveaux emplois, de créer non seulement ces emplois directs, mais aussi tout autour une série de petites sociétés qui pourraient en profiter, d'obtenir un transfert du savoir-faire, un transfert technologique, toute une série de choses positives pour l'économie belge. Maintenant, ce qu'on constate aussi, c'est que si ces investissements étrangers sont effectivement potentiellement porteurs de toute cette série de promesses, ils sont aussi porteurs de fragilité potentielle. Fragilité qui apparaissent notamment parce que ces investisseurs, donc en étant étrangers, ont un ancrage local forcément moindre et donc peuvent avoir tendance à prendre des décisions douloureuses de façon plus rapide et plus simple. Le fait qu'ils soient également étrangers et en général, on parle quand même d'investisseurs qui sont relativement conséquents, peut induire une asymétrie dans la relation avec les pouvoirs publics. Donc on peut avoir des négociations en cas de tension simplement qui rendent les pouvoirs publics inopérants ou incapables de rentrer vraiment en négociation avec ces acteurs étrangers.
Alors très concrètement, quel type de décisions qui peuvent se prendre à l'étranger et qui peuvent impacter l'économie belge, l'économie wallonne, hein, pour que ce soit encore plus clair pour nos auditeurs et nos auditrices?
Donc dans les décisions assez classiques, qui sont les décisions plutôt favorables, positives, on va avoir les décisions d'implantation, d'investissement, qui vont en principe provoquer un développement de l'emploi et un développement de l'entreprise concernée. Dans les décisions mitigées, sur lesquelles il n'est pas toujours facile a priori de se positionner, il y a les décisions de rachat. On ne sait pas toujours comment ça va évoluer, même si on peut avoir une première vision selon l'entreprise et le secteur concerné. Et puis dans les décisions plus compliquées prises à l'étranger, on va avoir évidemment les procédures de restructuration, de licenciement collectif ou de fermeture d'usine simplement.
Et c'est là évidemment que le fait que le centre de décision soit situé à l'étranger va sans doute rendre peut-être plus facile, plus fluide la prise de décision que si celle-ci était prise à côté du site sur le lieu même de l'implantation de l'entreprise.
Oui, c'est ça. Donc, le fait effectivement qu'on ait une décision qui soit prise dans un endroit où on n'a pas nécessairement la connaissance de l'impact social ni où on va devoir assumer cet impact, ça peut faciliter, malheureusement, ça peut faciliter cette prise de décision et simplement, ce sont des prises de décision qui sont alors prises sur papier avec des plans d'optimisation sans devoir nécessairement réfléchir aux conséquences locales puisque ces décisions sont prises de façon plus éloignée. Donc oui, c'est une potentielle fragilité. Ouais.
Alors en début d'émission, vous avez rappelé que la Belgique, c'était un petit marché, que la Belgique dépendait d'investissements étrangers. Cela signifie que la Belgique se montre accueillante, développe des politiques qui visent à inciter ses investisseurs à s'installer en Belgique, ou en tout cas à investir en Belgique?
Oui, de tout temps, la Belgique s'est montrée particulièrement accueillante. C'était initialement notamment les mesures en faveur des centres de coordination, donc qui visaient qui visaient à attirer sur le sol belge une série d'investissements, notamment liés aux holdings et donc aux sociétés de portefeuille. On a maintenant, tout ça a été un petit peu à évoluer vers la législation propre aux intérêts notionnels, dont on parle encore bien, et qui sont quand même plutôt orientés sur les grandes entreprises que sur les petites, et plutôt orientés vers les investissements étrangers.
Petit mot d'explication peut-être sur les intérêts notionnels, c'est quoi en gros le principe ?
C'est un mécanisme fiscal qui permet d'éviter une partie des taxes. Lors du transfert de financiers.
D'accord. D'autres exemples de mesures que la Belgique peut proposer pour se rendre attractive?
Alors, la politique économique, elle est aujourd'hui plutôt située au niveau des régions, mais on peut avoir des packages économiques qui sont proposés lorsqu'on veut attirer certaines enseignes particulièrement. On peut évidemment orienter, mettre en place certaines formations. On peut faciliter le recrutement, on peut mettre en place une série d'aides à l'emploi et aider à optimiser l'utilisation de ces aides. Donc on peut faire intervenir toute une série de maillons de la chaîne publique pour faciliter l'installation. Ça concerne aussi évidemment la logistique. On peut mettre à disposition des terrains qui sont plus ou moins bien situés, plus ou moins bien desservis par les transports, par les routes, selon ce qui est nécessaire. Mmh. Donc il y a toute une panoplie d'outils au-delà des assistants fiscaux qui peuvent être mobilisés afin d'attirer des entreprises pour lesquelles on a vraiment une envie d'investir, qu'on a vraiment envie de voir s'implémenter sur le territoire. Et on sait que les régions sont particulièrement friandes de certaines grandes marques qu'elles peuvent exposer. Par exemple, on sait que Google, pour la Wallonie, ça reste un étendard qu'elle peut montrer régulièrement. Même chose maintenant avec Alibaba, et on a vu la discussion à l'époque quand Zalando a cherché à établir un hub logistique entre les Pays-Bas et la Belgique. Il y a eu concurrence pour tenter d'attirer ce hub, évidemment.
C'est ça, on imagine que la Belgique n'est pas la seule à vouloir accueillir ces investisseurs étrangers, donc il y a une espèce de mise en concurrence de tous ces territoires, de tous ces pays. À l'intérieur de l'État belge, est-ce qu'il y a aussi une concurrence entre la région flamande, la région wallonne, éventuellement la région bruxelloise?
Oui, même si les atouts des trois régions sont relativement différents, et donc on a finalement un positionnement qui est plutôt complémentaire. Les dossiers sont assez rares, les dossiers tendus entre les trois régions sont relativement rares. Mmh. Maintenant, une concurrence entre États, elle est bien plus marquée, bien plus présente. C'est une tendance lourde, notamment de la mondialisation, mais qui est en train légèrement d'évoluer, puisqu'on a vu récemment toute une série de législations passer en France, en Allemagne et sous la poussée de l'Union européenne, pour appeler au filtrage des investissements étrangers dans toute une série de secteurs essentiels. Et donc, on a peut-être un momentum et une évolution là-dessus.
Ok, donc l'idée, c'est de limiter cette mise en concurrence, d'avoir des règles du jeu un peu communes, c'est ça?
L'idée au niveau européen, effectivement, c'est de... l'idée initiale, c'était de freiner les investissements qui arriveraient de Russie, de Chine, de Turquie. D'accord. Et d'États, par exemple, sur lesquels l'Europe a quelques hésitations. Et de freiner ces investissements, notamment dans des secteurs qui sont considérés comme stratégiques. On parle des nouvelles technologies, on parle de la mobilité, etc., de toute une série de secteurs importants. Maintenant, on voit que cela évolue légèrement, puisque en France, ici, récemment, on a vu une offre du Canadien Couche-Tard pour racheter Carrefour. Mmh. Le gouvernement français a fait une opposition en partie basée sur ce nouveau mécanisme de filtrage qui lui permettrait, dans un secteur qu'il a considéré comme essentiel, la grande distribution, de bloquer éventuellement un rachat.
Donc le retour de quelques mesures un peu plus protectionnistes, c'est ça ?
Oui, c'est ça, une tendance vers ça. Ouais.
Alors vous avez cité quelques étendards, Google, vous avez aussi évoqué la négociation avec le géant de la distribution en ligne chinois Alibaba. Ce sont des success stories, il y a peut-être des dossiers un petit peu moins glorieux pour l'économie belge ou wallonne ?
Pour l'économie wallonne, pour laquelle on est plus affiné, puisqu'on travaille plus spécifiquement dessus, il y a forcément des dossiers un peu plus difficiles à assumer. On pense évidemment, puisqu'on vient de parler d'Alibaba, si on pense aux investissements chinois, l'investissement à Louvain-la-Neuve du CBTC, donc un centre de recherche, a pris des retards assez conséquents, même s'il devrait finir par aboutir, mais pas visiblement dans l'ampleur initiale. Et puis évidemment, on pense à Thunder Power et à l'échec probable de l'implantation sur l'ancien site de Caterpillar.
Thunder Power, c'était des voitures électriques, c'est ça?
Thunder Power, c'est ça. C'est une entreprise chinoise qui produit des voitures électriques, qui envisage de produire un jour des voitures électriques.
Alors on peut, mais sans peut-être entrer dans trop de détails, mais reprendre ce dossier. Qu'est-ce qui a coincé et quelles sont les armes dont dispose la région wallonne ou la Belgique pour dire, écoutez, nous on a fait ce qu'il fallait pour que vous veniez, vous venez pas. Qu'est-ce qui se passe là? Il y a des mesures de compensation, de réparation, ou c'est vraiment un échec et puis on doit passer à autre chose?
Alors, il n'y aura probablement pas de mesure de compensation, de réparation. Ici, on avait un investisseur intéressé par un site très particulier, avec une situation très favorable. Un investisseur qui annonçait beaucoup d'argent qu'il était capable de mettre sur la table pour la production de certains modèles qui seraient réservés à la Belgique. On a eu toute une série de négociations avec la région qui avait plutôt bien la main dans le dossier. Maintenant, ce qui se passe, c'est que donc, la région avait, a débloqué, elle co-investissait sur le site et donc sur la filiale belge. Et ce co-investissement ne se fera probablement simplement pas.
Mmh. Et c'est là où vous évoquiez tout à l'heure la nature asymétrique de cette relation. C'est un bon exemple peut-être de cette nature.
C'est ça, on a donc une région qui a correctement négocié, mais qui au final n'a pas le dernier mot et qui ne pourra pas prendre de mesures de rétorsion fortes ou quoi que ce soit face à cet acteur qui lui fera vraisemblablement faux bond. Après, on reste dans le conditionnel dans ce dossier, qui n'est pas encore terminé.
Je ne doute pas que le CRISP y reviendra et proposera une analyse peut-être de ce dossier à moyen terme. Vous avez évoqué les difficultés que pouvait poser le fait que la délocalisation de la prise de décision par rapport à l'emploi belge, par exemple. On sait qu'en Belgique, il y a une culture syndicale très particulière. Est-ce que cette culture syndicale est un obstacle à ces investisseurs étrangers ? Ou pour le dire autrement, comment est-ce que le fait d'avoir une prise de décision à l'étranger, eh bien, s'accommode du jeu de la concertation sociale en Belgique ?
Alors, on a souvent donc une série d'études qui concernent ce qu'on appelle l'attractivité territoriale. Donc, c'est un peu le pendant de la dépendance externe, c'est voir les effets positif essentiellement de ces investissements étrangers. Ces études sur l'attractivité territoriale, elles pointent souvent effectivement le fait que le modèle social belge, et en tout cas le modèle de concertation belge et le taux de syndicalisation seraient un frein. Et on voit effectivement apparaître régulièrement dans certains dossiers le fait que ces investisseurs étrangers ont parfois du mal à accepter ou à intégrer la culture belge syndicale et la protection sociale belge et toutes ses spécificités. On voit aussi pointer régulièrement du doigt par ces investisseurs la lourdeur de la loi Renault, etc. Donc oui, du point de vue des investisseurs étrangers, pas du point de vue évidemment du contribuable et du citoyen belge, mais du point de vue des investisseurs étrangers, ceci peut être un frein à l'investissement. Et on voit par exemple dans une série de déclarations comme Ryanair, qui en est assez, assez classiquement habitué, une série de déclarations qui sont très frontales par rapport à ce modèle.
Alors pour terminer ce premier volet de vos recherches économiques sur l'actionnariat, peut-être un petit mot sur la forme que prend la diffusion des résultats de vos recherches. Vous avez un site là en ligne qui me semble important de mentionner.
Alors on a effectivement un site, donc www.actionnariawallon.be, en un seul mot. Et donc sur ce site on publie gratuitement, sans inscription ou quoi que ce soit, l'actionnariat que nous avons pu identifier pour l'ensemble des entreprises présentes en Wallonie. Donc ça veut dire pas seulement les entreprises qui sont établies en Wallonie, mais toutes les entreprises qui ont au moins une unité d'établissement. Donc ça couvre quand même une bonne proportion des grosses entreprises belges qui ont en général au moins un établissement en Wallonie. Et donc ces informations sont disponibles sur ce site.
The 21st century's falling apart. The river's getting wider and there's nowhere across. Somebody took a gamble and everyone lost. So while London's burning and Manchester's in flame, everybody's looking out for someone to blame. Society's broken, you can smell fear. Everybody wants answers, well I got one here. It's the economy's stupid, it's the dollar, it's the pound. And it's never gonna change until we burn it all down. So it's 10 for the money, 20 for the show, we're all slaves on a ship, so you better fucking go. Well, there's a couple of things I haven't figured out just yet. But why the hell would anybody wanna buy debt? And why we terrify the crooks and make the whole world poor? Gonna take their ugly business and fuck off to Singapore. Send the banks down the crapper, send the country to the wall. Get a tasty little bonus, to hell with them all. Cause when you're richer than God, well, you can do as you will. There's always some other sucker gonna pick up the bill. It's the economy, stupid. It's the dollar, it's the pound. It's never gonna change until they burn it all down. So it's 10 for the money, 20 for the show. We're just slaves on a ship, so we better fucking roll. Well, there's an eeny, meeny, miny, moe election call. You pick a boy who went
to Eton or a girl from St. Paul. They'll be powerless to change the world, whoever you choose. May as well flip a coin between the reds and the blues. Inflation's up high and interest low. That's why it's 10 for the money and it's 20 for the show. They say a whole way of life is under serious threat. So everybody get borrowing and sell some more debt. Is the economy stupid? Is the dollar, is the pound? Well, it's never gonna change till they burn it on down. Well, it's 10 for the money, 20 for the show. We're just slaves on a ship, so we better fucking go. Well, there's a great unrest on the British city streets. Some blame the government and some the police. Or is it lazy fucking chaps who want a free TV? Or just a short-term measure of austerity? Well, there's no individual to blame for it all. There's just a huge divide and so divided we fall. You can try to choose a leader, but the dollar is king. Not an ugly fucking scramble everybody wants in. It's the economy, stupid, it's the dollar, it's the pound. It's never gonna change until they burn it on down. Well, it's 10 for the money, it's 20 for the show. It's just slaves on a ship, so we better fucking row. Well, make a grown man weep, make a brave man cower. Make a cow suck lemons till the milk turns sour. Toss one rotten apple from a barrel gone bad and drink the worst damn cider that you ever have had. Well, it might seem simple, I guess that it's not. Don't spend more money than the money you've got, or build a bright new future on the same old trash and get exactly where we were before it all went crash. It's the economy, stupid, it's the dollar, it's the pound. It's never gonna change until we burn it all down. So it's 10 for the money and it's 20 for the show. We're just slaves on a ship, so we better fucking go. The economy's stupid, it's the dollar, it's the pound. It's never gonna change till we burn that fucking down. Well, it's 10 for the money, it's 20 for the show. We're just slaves on a ship, so we better fucking go.
It's the economy, stupid, un morceau du bluesman britannique David Ford, un morceau de 2012 extrait d'un album intitulé Austerity Measures, très chouette album que je vous conseille, et It's the economy, stupid, bien sûr, c'était une allusion à une phrase qui avait fait florès lors de la campagne présidentielle états-unienne de 1992 entre Bill Clinton et George Bush. On est toujours en compagnie de David Van Den Abel, coordinateur du secteur économie du CRISP, et avec lui on passe en revue bien les recherches que mène le CRISP en matière économique. On a déjà présenté le premier gros thème de ces recherches, l'analyse de l'actionnariat wallon. On va passer maintenant au deuxième thème, qui est celui de l'analyse de plusieurs secteurs économiques jugés stratégiques. Alors David, vous nous l'avez dit, hein, au début des travaux du CRISP, hein, à la fin des années 50, début des années 60, on étudiait le charbonnage, par exemple. Aujourd'hui, c'est plus vraiment d'actualité. Quels sont aujourd'hui les secteurs d'activité sur lesquels vous vous intéressez tout particulièrement?
Dans les secteurs sur lesquels on a des publications récentes ou des publications en préparation, on a tout le secteur de la pharma, forcément.
La Wallonie est un pôle pharmaceutique assez important. Hein,
oui, la Wallonie est un pôle pharmaceutique important au niveau européen et au niveau mondial. Et donc oui, c'est un secteur aussi qui est important pour l'économie wallonne, spécifiquement du Brabant wallon. Et puis on a aussi toute une série de publications plutôt en préparation dans ce cas-là sur le secteur de la sécurité privée, secteur intérimaire par exemple.
Des secteurs où on retrouve aussi, pour faire le lien avec le premier thème, des actionnaires étrangers.
C'est ça, donc le CRISP aborde toujours un secteur non seulement pour son intérêt, sa présence dans l'économie actuelle, mais aussi pour ses caractéristiques en termes à la fois de concentration économique et à la fois de dépendance externe, puisque c'est les deux portes d'entrée qu'on favorise.
Alors on ne va pas ici tellement s'attarder sur un secteur en particulier. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de savoir un peu la méthode que vous suivez pour analyser un secteur. Comment est-ce qu'on s'y prend pour faire le point, bien, par exemple, sur le secteur pharmaceutique, mais quelles sont les différentes étapes que vous suivez durant vos recherches?
Alors, la première étape, elle peut paraître surprenante, mais elle est fondamentale, c'est de définir le périmètre de ce secteur. Et c'est loin d'être nécessairement évident. On peut avoir toute une série de questions qui se posent. Donc, nous, de base, on se fonde sur ce qu'on appelle les codes NACE, donc qui sont des codes d'activité qui sont déclarés par les entreprises et que les entreprises remplissent. Et sur base de ces codes, on peut regrouper les entreprises selon leurs activités. Maintenant, ces codes ont des défaillances d'une part et donc il faut les compléter. Ces codes sont différents d'une source à l'autre et donc il faut parfois favoriser certaines sources ou au contraire relativiser d'autres sources. Et ces codes ne suffisent pas nécessairement. On peut avoir d'autres sources, par exemple des agréments, des textes législatifs qui permettent de circonscrire une partie du secteur. On peut avoir aussi des questions simplement, dans le secteur de la pharma, est-ce que la logistique, le transport de médicaments, le transport aussi de tous les prélèvements, etc., qui est très spécifique et qui ne passe pas par des sociétés classiques, est-ce qu'on l'intègre ou pas, par exemple, dans le secteur de la pharma? Est-ce qu'on l'étudie en tant que tel ou pas?
Oui, donc le simple fait de parler du secteur pharma, ce n'est pas aussi simple en réalité.
C'est ça. Il faut d'abord en définir les frontières et c'est loin d'être évident pour tous les secteurs.
Alors quand vous arrivez plus ou moins à circonscrire ce secteur, après il faut, j'imagine, récolter toute une série de données économiques propres à ce secteur. Quel type de données vous récoltez et comment vous vous y prenez pour les récolter?
Alors, en général, on récolte beaucoup de données qui viennent des comptes d'entreprises. Donc, les entreprises, selon leur taille, publient des comptes. Toutes publient des comptes, mais le format de ces comptes diffère selon leur taille. Et donc, ces comptes sont publics, disponibles sur le site de la Banque nationale de Belgique. Maintenant, évidemment, quand on travaille sur un secteur, on ne peut pas manuellement aller visiter et remplir tous ces comptes. Et donc, on utilise en général des bases de données. Dans notre cas, on utilise une base de données qui s'appelle Belfirst, qui est une base de données en partie belge, mais possédée par une agence, c'est ça, mais dont le centre de décision est étranger. Cette base de données nous donne accès aux données publiques, mais de façon centralisée, et nous permet de gagner beaucoup de temps pour l'analyse sectorielle en tant que telle.
Donc c'est déjà un premier tri, un premier dépouillement qui est fait par ces banques de données et vous venez ensuite en quelque sorte.
Alors cette base de données, nous on l'utilise simplement comme pour aller rechercher les données publiques en masse. Donc nous on fait le tri sur le choix du secteur, on s'occupe également toutes les questions d'actionnariat, mais on va rechercher dans cette base de données les données en masse pour pouvoir analyser beaucoup plus rapidement toutes les entreprises qu'on a sélectionnées comme faisant partie du secteur.
Alors on a l'impression que c'est des données essentiellement économiques, j'imagine, chiffre d'affaires, bénéfices, actifs, passifs. Il y a aussi des données de type social, taux d'emploi, des choses comme ça?
Oui, donc dans les comptes nationaux sont publiés aussi le bilan social, à nouveau selon la taille de l'entreprise, et donc on a un degré de précision qui varie, mais on a à minima le nombre moyen de travailleurs et le nombre de travailleurs au 31 décembre. On a souvent aussi des données sur le nombre de formations suivies, le nombre d'intérimaires présents, etc. Donc on a déjà un panorama assez complet, en tout cas une première approche correcte du bilan social et de l'ensemble des effectifs d'une entreprise.
Et donc c'est des données aussi qualitatives sur le type d'emploi, le type de travailleurs, de travailleuses qui sont employés, c'est pas juste des données quantitatives.
Oui, elles sont quantitatives, mais elles peuvent donner un aperçu effectivement du qualitatif à l'intérieur de l'entreprise.
Ok, donc première étape, on circonscrit le secteur, deuxième étape, on récolte toute une série de données, et puis, qu'est-ce que vous en faites de ces données? C'est quoi votre analyse proprement dite de ces données?
Eh bien, donc, l'analyse des données, elle porte d'abord sous nos deux angles favoris, forcément. C'est-à-dire que la première, c'est d'observer, une fois qu'on a ce secteur, à quel point il est concentré, donc à quel point il est détenu par un faible nombre d'acteurs économiques, ou au contraire, à quel point il est éclaté, et donc détenu par un petit nombre d'acteurs. En général, on travaille sur des secteurs qui sont quand même plutôt concentrés. On travaille aussi alors sur la dépendance externe, c'est-à-dire où se trouvent les centres de décision principaux de ce secteur, où se situent les acteurs essentiels, depuis quand ils sont présents sur le marché belge, qu'est-ce qu'ils ont fait sur ce marché. Et puis alors, on essaye de donner aussi un aperçu de tous les matières connexes du secteur, donc un petit peu la législation globalement, quel est l'état général, quelle est la tendance du secteur, etc.
Oui, on imagine que la régulation du secteur pharmaceutique, c'est pas la même chose que la régulation du secteur de l'intérim, évidemment.
Voilà, c'est ça. Et immanquablement, ça fait partie des notions premières que l'on donne sur le secteur. L'objectif du CRISP, quand il traite un secteur, c'est vraiment de préparer une publication qui permette à quelqu'un d'intéressé de rentrer dans ce secteur, de le connaître de façon académique, on est bien d'accord, mais donc d'en prendre connaissance, de connaître ses principales législations, mais aussi les principaux acteurs et les intervenants essentiels de ce secteur.
Alors vous parlez d'intervenants, on imagine aussi qu'une partie de vos analyses se dirige vers la mesure du poids décisionnel ou de l'influence politique que peut avoir ce secteur sur la prise de décision.
Alors on essaye en général, on est là dans des matières qui sont parfois complexes à identifier, mais on essaye effectivement de mettre en lumière aussi les organisations patronales, leur poids, leur capacité d'influence et au sein de ces organisations, les acteurs qui y sont prépondérants, en tout cas tel qu'on peut l'identifier nous de l'extérieur.
Alors on reviendra dans la suite de nos émissions probablement sur l'un ou l'autre de ces secteurs, mais ici on va arriver tout doucement au bout de notre entretien. David, je rappelle, David Van Den Abel, vous êtes coordinateur du secteur économie du CRISP. On va arriver au bout de cet entretien qu'on va ponctuer comme chaque émission par une définition du vocabulaire politique emprunté au vocabulaire politique du CRISP, vocabulairepolitique.be. La définition du jour, c'est groupe d'entreprise. Et justement, pour introduire cette définition, David, je pense que la notion de groupe d'entreprise, elle est importante pour ce que vous venez de dire, à savoir mesurer l'influence que peut avoir un secteur sur l'économie, la politique belge ou wallonne.
Oui, la notion de groupe d'entreprise, pour nous, elle nous permet d'expliquer quels sont les acteurs économiques, justement. Donc, c'est le groupe d'entreprise tel qu'il va être défini. C'est une unité d'analyse importante qui nous permet d'identifier quels sont les acteurs prépondérants dans une économie. Je pense que la définition revient bien sur la manière dont ces acteurs sont liés entre eux. Mais donc on a parlé beaucoup de multinationales. Quand on parle, nous, de groupes d'entreprises, on parle aussi de groupes d'entreprises plus familiaux, belgo-belges. On parle aussi de groupes d'entreprises associés au pouvoir public, par exemple. Et donc c'est une unité qui nous permet d'analyser tous ces ensembles de façon, plus correcte que si on s'arrêtait juste aux entités juridiques.
Eh bien, on va écouter cette définition de groupe d'entreprise, elle est lue par Sarah. Avant cela, David, on vous remercie pour vos explications aujourd'hui. Je pense qu'on a bien perçu quel était l'enjeu et quelle était l'importance de ces travaux économiques dans le chef du CRISP. Merci beaucoup, David.
Merci à vous.
Vocabulaire politique, définition. Groupe d'entreprise, réseau économique d'entités organisé autour d'un centre de décision commun. La notion de groupe d'entreprise ou de groupe de société n'a pas reçu de définition unique en droit belge, contrairement au droit allemand par exemple. Plusieurs législations, dont la législation comptable, y font toutefois référence en évoquant un ensemble constitué de plusieurs sociétés qui, bien que juridiquement autonomes, sont unies par des liens juridiques et économiques, en vertu desquels une de ces sociétés est en mesure d'exercer un contrôle, direct ou indirect, sur les autres, afin d'imposer une unité de décision. Cette définition fonctionnelle, mais étroite, apparaît insuffisante lorsqu'il s'agit d'appréhender le pouvoir économique et d'identifier les acteurs qui le détiennent ou l'influencent, ainsi que les phénomènes de concentration de ce pouvoir. Étudiant la décision politique et le pouvoir économique, le CRISP définit un groupe d'entreprises comme une unité économique composée d'entités juridiquement distinctes par l'intermédiaire desquelles se déploie un réseau de relations, le plus souvent, mais pas exclusivement, sous la forme de participations financières, qui sont organisées en vue de la réalisation d'un intérêt spécifique, irréductible à la somme des intérêts de ses membres. Cette définition englobe toutes les entités juridiques, y compris les associations et fondations, par exemple, et non uniquement les sociétés. Elle a également l'avantage de prendre en considération tous les types de liens qui pourraient exister entre elles, sans restriction a priori. Enfin, plutôt que de se limiter à la notion de contrôle, elle déplace l'analyse sur l'enjeu des intérêts. Les groupes d'entreprises ainsi définis sont des réseaux économiques. Ces réseaux se déploient autour d'un centre de décision, parfois qualifié de tête de groupe, qui peut être incarné par une personne physique, par un ensemble de personnes physiques, une famille, ou encore par un pouvoir public, ou par une personne morale,
Une société cotée, par exemple, comme c'est régulièrement le cas pour les multinationales. L'identification et la définition d'un groupe spécifique nécessitent à la fois d'en qualifier l'exercice du pouvoir, comment le groupe est-il organisé, et d'en préciser les frontières, quelles sont les entités qui en font partie. Concernant l'exercice du pouvoir, les groupes d'entreprises peuvent adopter des organisations variées, qui dépendent notamment de la nature des liens qui unissent leurs membres. La plupart du temps, ces liens prennent la forme de participation financière dans des sociétés. L'actionnaire obtient alors des droits de vote qui lui permettent d'influencer directement les décisions de la société participée. Les liens peuvent toutefois aussi prendre d'autres formes selon la nature de l'entité contrôlée et de l'entité détenant le contrôle, comme des contrats d'exclusivité, des actions particulières, des désignations d'administrateurs ou des subventionnements. L'identification de l'ensemble de ces liens permet de mettre en lumière la structure du groupe, qui peut s'avérer pyramidale, neuronale, voire horizontale, selon l'ampleur du groupe, sa diversification et son mode d'exercice du pouvoir. Dans l'étude des groupes d'entreprises, les frontières d'un groupe peuvent être décrites en cercles concentriques, autour de la tête de groupe, selon le niveau d'influence exercé par celle-ci sur chaque entité. Le premier cercle, le plus proche, comprend les entités contrôlées ou liées, sur lesquelles la tête de groupe exerce une influence majoritaire, 50% ou plus. Le second cercle comprend les entités sous influence ou affiliées, sur lesquelles la tête de groupe exerce un ascendant non négligeable, 10% ou plus, qui peut d'ailleurs être le principal, mais qui n'est pas majoritaire, moins de 50%. Les autres entités, sur lesquelles l'influence de la tête de groupe est moins marquée, n'appartiennent pas stricto sensu au groupe étudié.
Le vocabulaire politique sur Radio Panique.
C'était donc Sarah qui nous lisait l'entrée groupe d'entreprise, une entrée empruntée au vocabulaire politique du CRISP et que vous retrouvez bien entendu en ligne sur le site vocabulairepolitique.be, une entrée qui venait ponctuer l'entretien que nous venons d'avoir avec David Vandenabel, entretien qui nous a permis de passer en revue les différents travaux que mène le CRISP dans le domaine économique. Pour la dernière partie de cette émission, comme d'habitude, j'ai le plaisir de recevoir Jean Faniel. Bonjour Jean.
Bonjour.
Voilà, vous êtes directeur du CRISP et avec vous, on va passer en revue quelques publications récentes du CRISP. On va commencer avec un courrier hebdomadaire qui est signé par plusieurs mains, hein, Julien Vridac, Sophie Devillet, David Talucder, Vincent Jacquet et Jean Botin. Il s'intitule « Les mini-publics en Belgique 2001-2018, expérience de panel citoyen délibératif ». Il est évidemment possible de le commander à partir du site crisp.be. Quelle drôle d'expression, Jean Faniel, mini-public. D'où vient-elle et que signifie-t-elle?
Alors, mini-public, il ne faut pas entendre par là des élèves de l'école maternelle ou bien des personnes de petite taille. Non, je vous arrête tout de suite. Non, un mini-public, en fait, ce qu'on appelle ainsi, c'est une assemblée de citoyens qui sont tirés au sort et qui délibère sur un sujet politique déterminé dans le but de formuler une série de recommandations d'action publique. Alors en fait, ce terme mini-public, c'est le terme consacré dans le milieu des chercheurs qui se penchent sur les questions de démocratie participative. En général, dans le langage courant, on verra plutôt des expressions comme assemblée citoyenne ou panel de citoyens, convention citoyenne, jury délibératif, il y a toute une série de termes. L'expression mini-public, en réalité, elle vient de l'anglais et elle a été reprise telle qu'elle en français. Elle s'est imposée, bien qu'elle puisse paraître n'être pas très heureuse, et pas seulement pour les plaisanteries que je faisais tout à l'heure, mais en fait, lorsqu'on parle de public, on entend généralement un auditoire passif qui assiste à un débat, alors que justement ici, il s'agit bien d'un groupe actif qui mène le débat.
Alors, l'objet de ce courrier hebdomadaire, c'est de recenser les différentes expériences de ces panels ces 17 dernières années, hein, c'est ça? Et comment est-ce que vous avez circonscrit, comment vous avez identifié les expériences qui font l'objet de l'explication contenue dans ce courrier hebdomadaire?
Oui, c'est ça. En fait, depuis quelques décennies, on voit que les modalités de démocratie participative se multiplient Bon, si on veut faire simple, il s'agit de toutes les initiatives qui visent à permettre aux citoyens de s'impliquer plus directement dans les débats de la vie publique, au-delà des échéances électorales et des canaux traditionnels. Les mini-publics, c'est l'une de ces modalités. Alors, ils ont deux caractéristiques. D'abord, leurs participants doivent être tirés au sort, au moins partiellement. Et puis, en second lieu, l'Assemblée qui est ainsi constituée doit avoir pour but de délibérer. Elle doit donc arrêter une position. Ce n'est pas juste pour le plaisir de débattre ou de refaire le monde.
Alors, ce qui m'a frappé quand on parcourt ce courrier hebdomadaire, c'est la multiplicité des niveaux de pouvoir qui sont impliqués par ce type de dispositif.
Oui, multiplicité des niveaux de pouvoir, pas mal de thématiques qui sont abordées hein, aussi. Donc ce courrier hebdomadaire, il couvre les années 2001 à 2018 et on y retrouve tous les niveaux de pouvoir, c'est-à-dire pas mal de communes, quelques provinces, les régions, les communautés, toutes les trois régions, les trois communautés, l'autorité fédérale, l'Union européenne. Mais évidemment, on peut quand même relever que c'est surtout en Wallonie et en région bruxelloise que ce genre de dispositif a vu le jour jusqu'à présent. Et je le disais, les thèmes abordés sont très variés, sont très divers. Ils sont fixés par les organisateurs, qui sont alors soit des pouvoirs publics, soit des acteurs de la société civile. Et les thèmes les plus fréquents sont l'environnement, l'aménagement du territoire, la mobilité, la santé ou les questions générationnelles là aussi.
Oui, on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de mini-publics sollicités pour des questions de politique étrangère, de défense, de budget. Hein,
effectivement.
Alors, est-ce que vous avez peut-être des succès, des échecs? Je ne sais pas très bien comment on mesure d'ailleurs le succès ou l'échec d'un tel dispositif.
Mais en fait, tout le problème des mini-publics, c'est qu'il ne suffit pas de permettre aux citoyens de s'impliquer davantage dans la vie publique. Encore faut-il parvenir à trouver des citoyens qui acceptent de s'investir dans une telle démarche. Et on constate que seule une très petite minorité des personnes contactées acceptent de prendre part au mini-public. Beaucoup d'autres soit refusent l'invitation, soit acceptent poliment, mais en fait ne se présentent pas le jour prévu. Et donc la conséquence, c'est que le profil notamment socio-économique des participants est quand même assez souvent le même, des personnes aisées, des personnes assez instruites, et ça évidemment ce n'est pas très représentatif de l'ensemble de la population. Alors les résultats concrets, ils sont relativement variables. Parfois les pouvoirs publics ont réellement tenu compte des propositions d'action publique émises par les participants du mini-public. Mais d'autres fois, il semble qu'il n'y ait pas du tout eu de suivi. Je dirais que le principal résultat des mini-publics, finalement, c'est d'être parvenu à convaincre divers pouvoirs de leur bien fondé. Et on a ainsi maintenant des mini-publics institutionnalisés, si j'ose dire, qui ont été instaurés il n'y a pas encore si longtemps que ça par divers parlements en Belgique. D'abord la communauté germanophone, on en a un peu parlé, il y a eu un courrier hebdomadaire qui a été consacré à ce processus de manière spécifique. Maintenant on le voit aussi en région bruxelloise, au niveau de la région, de la COCOM, la commission communautaire commune, de la COCOF, la commission communautaire française. Et puis on voit aussi que ça se développe même en Wallonie.
Les mini-publics en Belgique, 2001-2018, expérience de panel citoyen délibératif, un courrier hebdomadaire donc signé par plusieurs personnes que je ne vais pas rappeler ici, mais que vous pouvez retrouver sur le site crisp.be. On passe à un autre format, les analyses du CRISP en ligne, comme leur nom l'indique, elles sont disponibles directement, gratuitement, sur le site du CRISP. Et on vient de passer à une nouvelle année, hein, c'était l'heure des bilans, des prospectives. Et sur votre site, Jean, j'ai repéré deux entretiens un petit peu bilan. Le premier, vous en êtes l'acteur principal. Il s'intitule « La NVA est la perdante politique de l'année 2020 ». Il a été publié dans le journal L'Écho du 31 décembre 2020. Alors Jean, rapidement, qu'est-ce qui vous permet de dire que la NVA est perdante politique de cette année ?
D'abord qu'il y a une gagnante, un gagnant, c'est le Vlaams Belang. Le Vlaams Belang qui a passé toute l'année 2020 en tête des sondages d'opinion. on ne l'a pas beaucoup vu, en fait, je crois qu'on ne l'a pas assez relevé, mais durant toute cette année, c'est lui qui a caracolé en tête des sondages en Flandre. Et donc, s'il devait y avoir des élections aujourd'hui, et si le résultat des sondages donnait à se traduire dans les urnes, eh bien, on pourrait penser que le parti d'extrême droite nationaliste flamingan serait le premier parti de Flandre, et donc aussi du pays. Et donc, le Vlaams Belang a relégué en seconde position, et quand même relativement loin derrière lui, la N-VA. La N-VA qui pourtant occupait depuis 2010, et là pas de manière virtuelle, mais de manière bien réelle, élection après élection, jusque 2019 inclus, la première place. Donc c'est vraiment, je pense, pour la N-VA, un premier camouflé. Et puis deuxièmement, la N-VA, depuis le début de la procédure de formation du gouvernement fédéral, donc dès le lendemain des élections du 26 mai 2019, a joué un peu, a soufflé le chaud et le froid. Je vais essayer de participer au gouvernement, puis finalement pas avec les socialistes, et puis avec les socialistes quand même, etc. Enfin, il y a eu toute une série d'épisodes. Mais sur la fin, on a bien compris que pour la N-VA, c'était important finalement de monter au gouvernement fédéral. Et finalement, le fait d'avoir été laissé de côté, alors qu'il y a eu des négociations relativement poussées, manifestement, avec les socialistes, le fait finalement d'échouer semble avoir mis la N-VA encore plus dans une position difficile. Donc c'est ce qui m'a fait dire que vraiment on pouvait pointer la N-VA comme principale perdante de cette année sur le plan politique. Non seulement en Flandre, mais évidemment avec tout le retentissement que cela peut avoir et toutes les répercussions que cela peut avoir sur la vie politique belge, y compris pour les Belges francophones.
Deuxième entretien, un peu en mode bilan et perspective, c'est votre collègue Caroline Segesser qui s'est prêtée à l'exercice proposé par le journal Le Soir, qui a titré cette interview comme suit « Paradoxalement, la situation sanitaire offre du répit au gouvernement ». Alors, c'est quoi le paradoxe que met en lumière Caroline dans cette interview, Jean ?
Mais donc, en fait, c'est le gouvernement fédéral, là, en l'occurrence, le gouvernement Vivaldi, donc avec les socialistes, les libéraux, les verts et le CDNV, gouvernement dirigé par Alexander De Croo. Et donc, pour faire le lien avec ce qu'on vient de dire, dont ne fait pas partie la N-VA. Alors, ce gouvernement, donc, on sait qu'il est finalement advenu, il a été mis sur pied dans des circonstances pas faciles, puisque les jeux, l'arithmétique électorale était particulièrement compliquée, ça on le voyait déjà dès le soir du 26 mai 2019. Il y a eu pas mal de missions, d'informations, ou qui ont pris d'autres noms, ou qui n'ont même pas reçu de nom, au fil du temps pour arriver à former ce gouvernement. Et finalement, ce gouvernement, il a vu le jour dans des circonstances assez chahutées, puisque c'est à cause de la crise du Covid qu'il a finalement été mis sur pied. À cause, mais sans doute aussi grâce à cette crise du Covid, notamment parce que la manière dont l'Union européenne a réagi à cette crise en essayant de coordonner certains efforts et surtout en suspendant très rapidement ces critères, notamment d'orthodoxie budgétaire, fait que ce qui était une pomme de discorde classique entre les libéraux et les socialistes en Belgique et qui compliquait la formation des gouvernements, à savoir comment est-ce qu'on va gérer les finances publiques, et on sait qu'elles ne sont pas au mieux, eh bien, cette pomme de discorde, finalement, elle se volatilisait presque, au moins pour 2021, et peut-être même un peu au-delà, on le verra. Donc, ça a permis que ce gouvernement soit formé. Mais c'est un gouvernement qui est très particulier, avec sept partis, une heptapartite, même en Belgique, on n'avait pas encore vu cela. Et c'est donc un gouvernement qui arrive dans des circonstances pas évidentes. Une équipe difficile à manier, il va falloir mettre tout le monde d'accord. Et ce qui, pour l'instant, semble mettre à peu près tout le monde d'accord, même si on sait évidemment toutes les difficultés qu'il y a, comité de concertation après comité de concertation, à mettre les gens d'accord sur les mesures qu'on va prendre pour fermer les robinets, pour rouvrir les robinets, etc. On sait qu'en tout cas, toutes les attentions se focalisent là-dessus. Et c'est cela que Caroline a voulu pointer dans cette interview, c'est que pour l'instant, en tout cas, puisque toute l'attention est focalisée là-dessus, comme il y a finalement une solidarité, un effort de guerre commun, serait-on tenté de dire, eh bien, c'est peut-être ce qui permet à ce gouvernement de faire passer au second plan ces tensions internes. D'où ce titre et d'où cette idée, finalement, de paradoxe. Pour l'instant, en tout cas, même si cette crise sanitaire n'a évidemment rien de facile à gérer, au moins elle permet de mettre un petit peu les autres tensions sous le boisseau pour l'instant.
Alors la transition, elle est toute faite hein, vers la dernière publication que nous avons retenue pour cette émission. Elle porte justement, bien sûr, un thème qui vous occupe depuis plusieurs mois. On y a déjà fait référence dans le cadre de cette émission. C'est précisément l'analyse de la gestion de cette épidémie de coronavirus et de ce qu'elle révèle. Vous avez fait une très belle analyse qu'on retrouve donc en ligne sur le site du CRISP. Santé, une répartition complexe des compétences. Elle a été publiée dans le magazine Santé conjuguée de décembre 2020. Vous en êtes l'auteur, Jean Faniel. Effectivement, ces derniers mois, on a beaucoup glosé sur les 8, 9, 10, 11 ministres de la Santé en Belgique. Alors, c'est quoi le vrai chiffre, Jean ?
Eh bien, je dirais entre 9 et 12, à peu près. En fait, ça dépend un peu de la manière dont on compte. Ces derniers temps, on a surtout retenu l'idée qu'on était à 9 ministres. Alors, moi, j'aurais tendance à dire qu'on est sans doute même à 10, parce qu'on oublie souvent que Caroline Désir a la compétence sur les centres PMS, ce qu'on appelle les centres psychomédico-sociaux. Et donc, je pense qu'on peut considérer que c'est aussi un des pans de l'activité en matière de santé. Donc, moi, j'aurais plutôt tendance à dire 10. Mais il faut bien voir que là-dedans, il y a aussi des personnes qui ont plusieurs casquettes. C'est ainsi que Alain Marron, bruxellois, écolo, a une casquette à la fois à la Commission communautaire française et à la fois à la Commission communautaire commune. Tandis que Elk van den Brand, également bruxelloise, mais elle, Groen, a une casquette avec Alain Marron en commission communautaire commune, puisqu'il y a toujours un tandem francophone-néerlandophone en COCOM, et en même temps, elle est aussi responsable pour la troisième commission communautaire, la commission communautaire flamande, ce qu'on appelle la VGC. Donc on peut considérer que finalement, il y a 12 portefeuilles qui sont concernés, mais il y a 10 personnes, même si le chiffre qui a surtout été retenu, c'est 9.
Alors ça vient d'où cette multiplication des différents ministres concernés par la question de la santé publique ?
Au-delà du chiffre, je crois que c'est surtout ça qui est intéressant à regarder et à décortiquer. Et je dois bien dire que j'ai quand même dû un peu prendre ma lampe de poche et partir fouiller dans les archives, parce que la situation aujourd'hui est loin d'être claire, mais elle est aussi loin d'être évidente à comprendre quand on essaie d'en retracer la genèse, finalement, la généalogie. En réalité, il faut remonter aux années 70-80 pour bien comprendre l'enjeu des débats. 1970, c'est la première réforme institutionnelle, celle qui va mettre sur pied, qui va créer les commissions, les communautés culturelles, néerlandaises et françaises d'abord, la communauté culturelle allemande suivra un petit peu, et puis on les rebaptisera 10 ans plus tard en communauté tout court, hein, communauté flamande, communauté germanophone et communauté française. Ces communautés, elles naissent avec essentiellement des matières culturelles dans leurs compétences. On crée aussi les régions, mais les régions, notamment parce que la naissance de la région bruxelloise est voulue du côté francophone, mais pas du côté flamand, elles vont mettre nettement plus de temps à sortir de terre, 10 ans pour la région flamande, la région wallonne, et encore, il faudra attendre 1989 pour la région bruxelloise. Alors, dans les années 70-80, il n'y a pas d'autres réformes institutionnelles avant 10 ans, 1980, mais il y a quand même pas mal de débats. Et ces débats vont aboutir en 1980 à ce que l'on ajoute ce qu'on avait appelé alors les matières personnalisables dans l'escarcelle des compétences des communautés. Alors on le fait de manière assez modeste. En 2011-2014, lors de la sixième réforme de l'État, la dernière en date, là on a considérablement augmenté ces compétences dans les matières personnalisables. Mais donc les matières personnalisables, ce sont des matières qui touchent les personnes, notamment en raison de la langue qu'elles parlent. Et c'est ainsi que une partie des soins de santé, encore assez limitée à l'époque, mais aujourd'hui elle est beaucoup plus conséquente, est tombée dans l'escarcelle donc des communautés. Alors, les communautés, c'est la communauté flamande, c'est la communauté française, c'est la communauté germanophone, mais à Bruxelles, où on a des institutions francophones, des institutions néerlandophones, des institutions bilingues, où on a une population à laquelle on ne peut pas demander si elle est francophone ou néerlandophone, eh bien, ça fait un tableau assez compliqué. Et donc là, petit à petit, pas tout de suite, c'est la commission communautaire commune qui est devenue compétente. Et donc, il faut bien voir que la santé est une matière communautaire, mais avec beaucoup d'exceptions qui restent aux mains de l'autorité fédérale. Et donc, ça donne déjà un tableau assez complexe. Et puis, du côté francophone, pour des raisons essentiellement financières, la communauté française a transféré l'exercice de certaines de ses compétences. Et là, elle l'a fait à la Commission communautaire française pour les francophones de Bruxelles et à la région wallonne. Donc, il faut retenir de cela que finalement, c'est une compétence qui est partagée par beaucoup de niveaux de pouvoir. Ce n'est pas une matière régionale, mais il y a une région, la région wallonne, qui exerce quand même cette compétence. Et c'est finalement une matière, la santé, qui va toucher beaucoup de choses et donc aussi impliquer beaucoup de niveaux de pouvoir et beaucoup de ministres.
Une répartition complexe des compétences en matière de santé, une interview que vous pouvez retrouver sur le site crisp.be. Merci beaucoup Jean, on doit malheureusement rendre l'antenne. Cette émission sera rediffusée le vendredi 19 février à 19h. On se retrouve le 1er mars pour un nouvel épisode de l'actualité en 3D. Merci beaucoup, restez sur les antennes du 105.4 FM.
À bientôt.